Samedi matin, j'ai rendez-vous au bois de Mareuil. J'y retrouve Julie Bayard et ses élèves du jour, trois duos maître et chien, prêts pour une séance de mantrailing, une activité sportive notamment utilisée pour rechercher des personnes égarées. On en parle avec Julie avant d'écouter les témoignages des participants du jour.
J'ai créé l'entreprise en octobre 2019. Avant, j'étais travailleur social pendant 18 ans. Et donc, depuis octobre 2019, je développe tranquillement les jardins canins de Julie, où je propose de l'éducation canine pour les chiots, de l'agility en individuel et en cours collectif, et du mentrailing, mais également depuis un an à peu près, la médiation animale. Donc je travaille en fait avec mes chiens auprès des publics fragiles. Donc je peux aller en structure ou je peux recevoir sur mon terrain d'agility.
Comme ça, tu fais le lien aussi avec ton ancien métier dans le social.
Exactement. Le but, c'était vraiment ça, d'allier ma passion à mon métier du social.
Et alors, comment ça se fait que tu t'es réorientée comme ça, que t'es changé de métier? Et pourquoi tu es allée aussi vers ce travail avec les chiens?
Alors en fait, les chiens, c'est ma passion depuis toute petite. Donc j'ai pas pu en avoir avant l'âge de 18 ans, mais depuis, je me fais plaisir, on va dire. Hein, et donc j'ai été formée tout doucement hein, grâce à un congé individuel de formation. En fait, à l'époque, c'était le CIF, un congé individuel de formation. Donc j'ai été financée par l'OPCO, donc de mon employeur. Et puis j'ai pu être formée en tant qu'éducateur canin, comportementaliste. Et ensuite j'ai fait des formations complémentaires. Donc j'ai fait le mentrailing au CFPPA de Tillois. Et puis au niveau agility, j'ai fait 11 ans d'agility. Donc j'ai été formée via mes différents entraîneurs en club.
Tu veux bien nous expliquer un petit peu ce que c'est alors le mentrailing ?
Donc le mentrailing, donc c'est la recherche de victimes. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre au chien à utiliser son odorat. Donc il utilise déjà son odorat, mais on va lui apprendre à se concentrer, à se canaliser pour utiliser son odorat, discriminer les odeurs et pour rechercher une odeur en particulier qui est l'odeur de sa victime. Le but, c'est vraiment que ce soit un jeu pour le chien. Donc quand on fait du débourrage au départ, on lui fait sentir l'objet, en fait, hein, la victime, elle va le motiver avant de partir. Ensuite, on lui fait sentir l'objet. Le maître va déclencher la recherche en disant « cherche » à son chien. Et là, le chien va démarrer tranquillement. Il va trouver la victime qui n'était pas cachée très loin, derrière un arbre en général, sur un chemin. Et puis là, on va faire la fête au chien. Il va avoir sa récompense, qui peut être de la nourriture pour les chiens gourmands ou du jeu. Un boudin de travail, par exemple, ou une balle.
Ce fameux objet qu'on présente au chien, donc avec l'odeur de la victime à retrouver, ça peut être un vêtement qu'on a déjà porté avec une odeur. Et tu m'as dit aussi que ça pouvait être une brosse à cheveux, tout simplement. Alors moi, je pensais qu'il fallait vraiment qu'il y ait l'odeur qui soit imprégnée. Mais finalement, en fait, une légère odeur, peut-être sur une brosse à cheveux, sur un masque, ça peut être suffisant.
Alors on va dire que l'odeur, de toute façon, sur la brosse à cheveux, elle est quand même bien imprégnée. Et sur le masque, si on a respiré dedans ou un mouchoir où on s'est mouché, l'odeur, elle est quand même bien là, bien présente. Et quand la victime, en fait, elle marche, elle dépose des odeurs, donc grâce à ses chaussures au sol, mais il y a aussi plein de petites particules qui partent de son corps et qui vont se diffuser dans l'air et qui vont tomber un petit peu plus loin.
On était au bois de Mareuil. C'est un espace qui est quand même assez grand. Il y avait aussi une question de faire en sorte que les pistes ne soient pas troublées par un passage qui ait déjà été fait au même endroit.
C'est ça. On essaye d'utiliser un espace assez grand en fonction du nombre de chiens qu'on doit passer parce qu'on ne peut pas polluer les pistes. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit de repasser à un endroit où on est déjà passé. Sinon, ça va mettre trop en difficulté le chien.
Il y a aussi cette question des odeurs qui peuvent être diluées, moins fortes, en fonction du temps. En fait, il y a plusieurs paramètres qui jouent.
Tout à fait. La météo, c'est quand même très important. On va dire que donc, quand il pleut trop fort, on ne peut pas faire de mantrailing, les odeurs sont trop diluées. Quand il fait trop chaud, les odeurs, elles s'évaporent. Donc souvent, quand il fait chaud, on fait le mantrailing en soirée pour que ce soit plus facile pour le chien. Et quand il y a énormément de vent, c'est très difficile pour le chien parce que les odeurs, en fait, elles sont poussées un petit peu plus loin. Et le chien, du coup, il va être induit en erreur. Donc il va devoir se concentrer encore plus.
Là, on était en forêt aussi, donc il y a déjà beaucoup de stimulation, des animaux, du passage. Mais tu fais aussi du mentrailing en ville. Et là, les stimulations, elles sont différentes, j'imagine, les voitures ou la pollution, peu importe.
Oui, et là, en fonction du tempérament du chien, ça peut être compliqué. Par exemple, un chien qui est timide, qui a un peu peur de la ville, on va plutôt le démarrer en forêt, il aura beaucoup plus de mal à se concentrer en ville. Un chien qui a assez confiance en lui et qui commence à être un peu confirmé, il va réussir à faire abstraction de l'environnement et à se concentrer sur l'odeur. Donc au début, on commence par des petites pistes en ville pour agrandir tout doucement les pistes.
Bah justement, depuis tout à l'heure, on parle de débourrage, de chiens confirmés aussi. Tu peux nous expliquer un petit peu comment on sait quand un chien est confirmé et quand il a passé le cap du débourrage ?
Alors en général, pour le débourrage, alors les chiots, on peut les démarrer à 3 mois au moment de training, hein, donc c'est très tôt. Le débourrage, en général, ça dure quand même au moins 2 séances pour que le chien comprenne bien ce qu'il a à faire et que ce soit vraiment un jeu pour lui. Et puis ensuite, on va commencer du coup les pistes hors vue. Donc au début, on fait des pistes à vue, donc la victime motive le chien et puis elle va se cacher. Et ensuite, le chien ne voit plus partir la victime. Et là, on se dit qu'il commence à avoir bien compris ce qu'il y a à faire. Voilà, en fait, on teste un petit peu le chien et le potentiel du chien tout doucement.
Allez, sens.
Allez, vas-y.
Allez, cherche.
Tu disais que c'était accessible dès 3 mois pour les chiots, du coup. C'est accessible aussi à toutes les races de chiens ?
Oui, bien sûr. Toutes les races de chiens sont les bienvenues. Et même s'ils n'ont pas de race, qu'ils sont croisés, ils sont bienvenus quand même.
Je me demandais, par exemple, si demain, quelqu'un disparaît aux alentours d'Arras, où on est, et qu'il y a une battue qui est organisée pour essayer de le retrouver, est-ce que des personnes qui ont déjà fait du man trailing peuvent participer et aider ? Ou est-ce que c'est vraiment réservé à la gendarmerie, à des policiers avec leurs chiens ?
Alors en général, ce sont des équipes déjà opérationnelles qui interviennent, des équipes de gendarmes avec des chiens qui sont formés et entraînés quotidiennement. Nous, on est plutôt dans du man trailing loisir. Après, j'ai des chiens qui pistent quand même très très bien et je serais pas surprise qu'ils puissent nous aider. Mais on va laisser ça aux professionnels.
Tu me disais aussi que le man trailing, ça révèle un peu le chien, son comportement, comment il est en fait vraiment à l'intérieur de lui. Et des fois, on se rend compte qu'il est peut-être pas si en confiance que ça.
C'est ça en fait. Ce que j'aime dans le man trailing, c'est que le maître, il peut découvrir son chien différemment, sous un autre angle. Et en fait, on se rend compte parfois que le chien, il a pas tellement confiance en lui. Donc quand il a du mal à démarrer, rien que le départ en fait, on regarde le chien au départ. S'il démarre tout de suite, c'est plutôt que, il a confiance. Il y a des chiens qui vont avoir beaucoup de mal à démarrer, il y a des chiens qui vont avoir du mal à aller vers la victime. Ou alors, par exemple, si la victime elle est dans des fourrés, le chien il va avoir du mal à rentrer dans les fourrés. Il faudra que le maître il fasse un petit pas en avant pour débloquer le chien et qu'il puisse avoir confiance. Il faudra bien l'encourager. Et le man training, en fait, ce qui est super, c'est que ça donne confiance au chien. Ça lui donne confiance en lui. Donc ça, c'est moi, je trouve que c'est une super activité.
C'est bien, mon chien, bravo, ça.
Du coup, les chiens timides, c'est très compliqué au début parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie d'aller voir l'humain. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Alors que les chiens qui adorent les humains, ils vont aller faire la fête et tout. Et des fois, j'ai des chiens, en fait, juste, ils regardent et ils s'en vont. Donc genre, j'ai trouvé ma victime, mais je m'en vais, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas envie d'aller voir l'humain. Et au fur et à mesure, on voit qu'ils prennent confiance pendant les séances, puis après, c'est plus du tout les mêmes chiens. Ça qui est intéressant dans le monde de training, c'est de travailler la confiance du chien, la confiance en lui.
Ça permet aussi, j'en parlais avec les propriétaires qui ont fait le man training aujourd'hui avec nous, ça aide aussi peut-être à travailler justement certaines aptitudes, alors pas que le fait d'utiliser son nez pour le coup, mais aussi de se dépenser mentalement, d'apprendre aussi des mots-clés, de sentir, d'aller chercher.
Oui, alors ouais, en effet, c'est une grosse dépense mentale en fait, le travail du flair en général, que ce soit du sauvetage, que ce soit du pistage français, du cavage, enfin voilà, la dépense mentale, elle est hyper importante dans ces activités de flair et elle permet aussi d'apaiser le chien. On est vraiment là-dessus. Moi, je dis à mes clients, quand ils ont un chiot énervé le soir, de faire du travail du flair, de dispatcher des friandises dans la maison, de les rechercher, et rien que ça, ça le fait redescendre en excitation en fait.
On éduque aussi, quelque part, les propriétaires en suivant le chien dans son pistage. Tu donnes quand même pas mal de conseils pour leur expliquer un petit peu leur comportement en même temps.
Alors moi, en tant que coach, en fait, je suis là pour les guider et je suis là aussi pour leur apprendre à lire leur chien, c'est-à-dire à lire la manière dont il piste, les moments où il fait des négatifs, ça veut dire que bah non, la victime, elle n'est pas là, il nous a donné une indication à ce moment-là. Le moment où ça devient compliqué pour le chien, où il fait des signaux d'apaisement, hein. On a un chien qui va pouvoir se secouer, qui va pouvoir bâiller parce que ça devient compliqué pour lui. Donc ce qui est intéressant vraiment pour le maître, c'est d'apprendre à lire son chien.
Dis-moi, est-ce qu'il y a des cours éventuellement qui seraient accessibles par des personnes qui écouteraient ce podcast et qui auraient envie d'y aller avec leur chien, que ce soit en man-trailing ou sur d'autres disciplines ?
Oui, vous pouvez retrouver tous les événements, donc en tout cas en collectif, hein, que ce soit Agility Collectif, Mantrilling ou École du Chiot, sur la page Facebook Les Jardins Canins de Julie. Et j'ai aussi un site internet, hein, vous tapez Les Jardins Canins de Julie. On est situé juste à côté de Bapaume, à Biéville-et-les-Bapaume. Et puis pour ce qui est des créneaux individuels, il faut me contacter directement.
Et tu vois, on est passé bien là. Ou ouais, elle se remet sur la piste, t'as vu ça ? Je crois que je vais tourner un peu avant.
Bon, je vais après venir avec.
Elle là, regarde, elle est sur l'odeur, mais elle ne le trouve pas. En fait, il est monté à l'arbre. Alors, elle sait qu'il est à quelque part, mais elle sait pas où.
Ah ouais.
T'as vu ? Repars pas trop en arrière, toi. Je lui avais dit là-bas derrière. Pour info.
Voilà, on a fait des négatifs là-bas, donc.
On t'a fait des négatifs ? C'est bien.
Après la séance, voici quelques échanges avec les participants.
Ça fait une petite année qu'on fait du man training avec Socket. Au départ, c'était pour. Elle avait une activité physique, et elle fait du canivier d'été. C'était pour utiliser son nez qu'elle a, comme ses parents sont champions de chasse, utiliser son nez en fait. Là, elle est obligée de réfléchir et puis surtout de bien chercher, bien utiliser son nez en fait.
Alors là, ça fait un an quand même qu'elle en fait, donc bon, là, on voit qu'elle est capable de faire de longues pistes aussi et d'aller chercher des victimes bien cachées.
Ouais, la plus longue qu'on a faite, c'est 1,2 km. Et après, des pistes de 700-800 mètres, c'est pistes d'entraînement en fait.
Est-ce que tu vois du changement du coup dans les autres activités que tu peux faire avec elle par rapport à sa concentration ou son énergie ?
La différence avec les autres, le canicross, le VTT, c'est que maintenant elle n'attend plus l'heure de départ. Au départ, quand j'ai commencé, elle attendait l'heure de départ pour partir. Mmh. C'était ce que je lui demandais au début. Et maintenant, elle le fait d'elle-même. Elle cherche, une fois qu'elle a le mot cherche, elle part.
Aussi, elle repère des indications, donc elle écoute la voix et elle repère ses petits mots-clés aussi pour faire le man trailing, cherche, sent aussi. Il y a d'autres mots comme ça qui sont utilisés aussi en canicross ?
En canicross, c'est devant, doucement, ce qu'on n'utilise pas en man trailing. C'est le doucement j'utilise. Et après, ce qu'il faut faire attention comme avec Socket, c'est qu'elle connaît ses directions, gauche-droite. Donc en man trailing, il faut éviter de dire, par exemple, si on discute entre nous, même tout bas, éviter de dire une direction, parce qu'elle est capable de suivre la direction à l'écoute, en fait. Et pas utiliser son nez.
Alors, du coup, nous, on avait Oupsy et Shelby. Ça fait combien de temps qu'elles font du man trailing ?
Shelby, c'est sa deuxième séance, et Oupsy, c'était sa première séance aujourd'hui. La première séance pour Shelby, ça a été un peu difficile, parce qu'on avait essayé la motivation avec la friandise, et ça n'a pas du tout marché au départ. Donc, on est parti sur de la motivation plutôt avec un jouet, et notamment une balle qui fait pouet-pouet. Et ça s'est bien mieux passé avec cette motivation-là. Et Upsy, comme c'était sa première séance, elle a eu un petit peu de mal à se mettre en route. Et finalement, ça a été sur la fin, elle a quand même plutôt bien cherché.
Donc du coup, vous faites d'autres activités avec elle en dehors ?
Oui, on fait de l'agility avec les deux. On essaye d'y aller une à deux fois par mois. Et puis après, on fait les cours d'éducation. Donc les cours chiot pour Upsy qui est encore un bébé. Mm-hmm. Et les cours d'obéissance pour Shelby qui est plus grande.
C'est important quand même pour vous de faire du man trailing, de faire ce pistage, soit potentiellement pour aider à retrouver des personnes, soit tout simplement pour l'éducation de vos chiens, enfin d'essayer de les entraîner, de les faire réfléchir et puis de leur donner des activités stimulantes en fait aussi.
Oui, c'est plutôt la stimulation qui nous intéressait dans le man trailing et surtout apporter un peu une capacité de concentration à Shelby qui est un peu hyperactive. Et du coup, la fatiguer davantage, parce qu'avec le flair, c'est vrai qu'elle se fatigue plus qu'avec une activité physique, comme de la course à pied, ça la fatigue pas tant que ça en fait.
C'est ça qui est intéressant aussi avec le men trailing, c'est que finalement bah, elles sont obligées de faire fonctionner leur sens, leur tête aussi, et pas seulement le côté physique et énergie quoi. Elles doivent réfléchir, sentir, essayer de retrouver la victime aussi avec le regard une fois qu'elles sont toutes proches.
Oui, c'est ça. Ça fait travailler pas mal de sens et du coup, ça permet de bien les fatiguer et aussi de leur apprendre à se concentrer sur un ordre précis qui est de chercher la victime dans les espaces.
C'était une rencontre avec Julie Bayard et les Jardins Canins de Julie, autour d'une discipline sportive à pratiquer avec son chien, le man-trailing. Un reportage illustré par quelques extraits sonores de la séance, et vous avez également entendu quelques échanges avec les participants.
Sébastien, rappelle-la un coup. Il est parti le chien. Allez, dis-lui. Allez, cherche. Cherche. C'est un petit pas. Tu vois comme elle a peur. C'est un petit bout. Ah, ça y est. Il a sauté le tronc et tout là. En mode agility. Ça y est, c'est bien. Donc voilà, en fonction des chiens, tu vois, là, c'est pas si facile pour elle hein, de prendre confiance. Donc on fait avec les tempéraments des chiens.